Je rappelle pour chacun, et puis en particulier pour, je l'indique à nos visiteurs, que au cours de cette année scolaire 2024-2025, nous avons souhaité parcourir l'Évangile selon Luc, mais de façon un peu thématique. Et donc nous avions eu lors de notre week-end d'église par Thibaut une introduction générale sur l'Évangile. Puis dimanche dernier, Olivier, tu as présenté l'humanité de Jésus. Et dans cette troisième séquence de l'introduction, puisque nous regroupons donc par trois ou quatre dimanches consécutifs ou presque les thèmes que nous envisageons sur l'Évangile selon Luc, donc dans cette troisième et dernière intervention sur le cycle introductif à l'Évangile, j'avais à cœur de vous présenter cet aspect « Il faut l'Évangile de la nécessité » et d'ouvrir aussi par ce très beau portrait de Franz Hals, de Luc, qui écrit et qui réfléchit. Je trouve que le peintre a su rendre avec beaucoup de pertinence la réflexion que Luc a eue, et dont il fait part d'ailleurs lui-même dans son prologue, quand il dit qu'il lui a semblé bon de mettre par ordre les choses qui sont reçues parmi nous. Et donc, nous avons vu, outre l'introduction générale à l'Évangile, l'humanité de Jésus-Christ, et c'est vrai que des aspects divers de la personne du Christ, l'évangéliste Luc retient en particulier son humanité, et Olivier, c'est ce que tu as présenté dimanche dernier. Et là, j'avais à cœur de vous présenter la finalité, la mission de Jésus. Nous avons vu la personne dimanche dernier, là nous allons voir cette mission de Jésus. Parce que, qu'est-ce qu'un évangile? Eh bien finalement, un évangile, c'est... Un évangile, c'est une biographie particulière d'une personne unique, Jésus. Le genre évangile n'existe finalement que dans la Bible. Et c'est bien ce que se proposait de faire Luc, comme il l'indique au début de son second ouvrage, le livre des Actes des Apôtres. J'ai composé le premier récit sur tout ce que Jésus commença de faire et d'enseigner, nous dit-il en Actes 1, verset 1. Et donc, les évangiles, ce sont des récits qui nous présentent les actes et les paroles de Jésus. Mais c'est une biographie très spéciale puisqu'elle est biaisée vers la dernière semaine de vie de Jésus. Si l'on prend nombre de versets sur l'ensemble de l'Évangile selon Luc, il y a 24,7, j'ai arrondi à 25% de l'Évangile qui est sur la dernière semaine de vie de Jésus. Donc, il nous est dit quelque chose d'avant sa naissance et puis sa naissance, un grand trou, quelques mots à ses 12 ans, un grand trou, un développement de son ministère entre 30 et 33 ans, si on fait simple, et puis finalement un accent très fort mis sur la dernière semaine de vie de Jésus. Et par cela, l'évangéliste nous dit que c'est en fait ce qu'il avait envie de mettre en évidence. Donc une biographie tout à fait spéciale. Et cela... c'est parce qu'il y a un verbe que Luc emploie plus que les autres évangélistes, c'est le verbe « falloir ». Vous avez ici les fréquences que nous retrouvons dans les quatre évangiles, et comme vous le constatez, c'est très prééminent chez Luc, et nous le retrouvons d'ailleurs aussi beaucoup dans le livre des Actes, qui est son second ouvrage. Et donc, ce verbe « falloir », il faut, scande toute cette évangile selon Luc pour nous présenter pourquoi. Pourquoi Jésus est venu sur cette terre? Pourquoi a-t-il vécu cette vie d'homme? Parce qu'il fallait faire un certain nombre de choses. Et donc je vous propose un exposé sous trois aspects qui seront d'ailleurs de longueur hétérogène. La nécessité de la mort et de la résurrection de Jésus, la nécessité du salut et la nécessité de l'éthique chrétienne. À travers ce verbe « falloir » que nous allons retrouver sous ces trois angles. Et tout d'abord, la nécessité de la croix et de la résurrection. Cette nécessité de la croix et de la résurrection est le cœur même de ce pourquoi Jésus s'est fait homme et est devenu le petit bébé de Bethléem, l'enfant de Nazareth, l'homme de Galilée et de Samarie et de Judée. Et cette nécessité était déjà inscrite dans les annonces qui avaient été faites. Nous pensons par exemple à ce que le vieux Siméon a dit à Marie et Joseph qui venaient présenter le bébé Jésus au temple en annonçant qu'il serait cette lumière des nations et cette gloire du peuple Israël et qu'il y avait cette mission qui était là. Déjà, Zacharie, le père de Jean, en avait parlé. Nous pouvons nous rappeler tous ces récits du début des évangiles et des cantiques qui le ponctuent. Mais Jésus lui-même, dès le début de sa vie, il fait allusion. Et il y a une prise de conscience précoce qui, semble-t-il, se fait lorsque Jésus, à 12 ans, monte peut-être pour la première fois au temple et qu'il y reste et que ses parents le retrouvent 3 jours après en train d'échanger avec les docteurs de la loi qui s'étonnaient de ses réponses. Et donc, face à l'inquiétude dont font preuve ses parents, Jésus a cette réponse. Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Cet épisode est à la fois un peu mystérieux, mais aussi également très signifiant, puisque nous avons au travers de cet épisode la conscience que Jésus prend de sa mission tout à fait particulière, puisque il était certes l'enfant, comme on l'estimait, de Joseph et de Marie, mais il prend conscience de cela. Alors nous voyons bien que là, nous touchons à un point important de la nature même du Christ, puisqu'il est, comme ça a été rappelé dimanche dernier, 100% Dieu et 100% homme. Mais s'il est 100% Dieu, il a néanmoins voilé un certain nombre d'attributs de sa divinité. Et contrairement à ce que les évangiles apocryphes racontent, rien sans doute ne distinguait l'enfant de Nazareth des autres enfants de son âge. Autrement dit, ce n'est pas parce que Jésus est de toute éternité fils de Dieu que quand il avait 2 ans, il avait cette conscience de ce qu'il était, etc. Et donc, il semble bien que cet épisode dans le temple soit particulièrement important puisque Jésus, là, commence lui-même à dire « il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ». Dans cette conscience personnelle qu'il a de cette mission qui va au-delà d'une humanité qui jusque-là apparaissait comme totalement normale. Et bien entendu, nous avons de nombreux textes, en particulier dans l'Évangile selon Jean, où Jésus insiste sur le fait que ce qu'il fait, eh bien, c'est ce qui lui a été commandé par celui qui l'a envoyé. Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé, dit-il par exemple dans Jean 9, verset 4. À propos de l'aveugle-né. Ce que Jésus fait, sa mission quand il est sur la terre, c'est ce que le Père lui-même lui a demandé. Et donc, j'ai adopté dans toute la présentation cette disposition où un verset de l'Évangile selon Luc répond à un autre verset de l'Évangile ou d'autres textes pour essayer de mettre en parallèle et d'éclairer un petit peu ce que nous avons dans l'Évangile. Donc, prise de conscience précoce à 12 ans dans le temple, et ensuite 18 ans d'attente avant que Jésus rentre dans son ministère proprement dit. Et puis, quand Jésus rentre dans son ministère proprement dit, eh bien, il va de lieu en lieu faisant du bien, comme Luc rappellera le propos de Pierre à Césarée devant Corneille, délivrance que le diable avait asservie à sa puissance, il parlait, il prêchait, il guérissait. Alors cette mission était toujours là, puisque lors de son premier discours rapporté par Luc, même si ce n'est pas chronologiquement sans doute totalement exact, enfin ce n'est pas dans l'ordre chronologique, je pense au discours dans la synagogue de Nazareth, et il rappelle ce texte d'Ésaïe 61, « L'Esprit de l'Éternel m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles, pour libérer les captifs, etc. » Mais pendant quand même un long laps de temps, Jésus, semble-t-il, a caché ce qui était le cœur de sa mission. Et il faut attendre que Jésus se retrouve avec ses disciples, sans doute quelques mois avant la fin de sa vie, pour que, à Césarée de Philippe, mais notons que Luc ne situe pas l'épisode, il fasse la première annonce de sa mort et qu'il révèle à ceux qui l'entouraient, à ses proches, donc aux disciples, Pierre et les autres, nous savons que Pierre réagira, ce secret messianique. Et d'après vous, qui suis-je? Il venait de demander qui les hommes pensent-ils que je suis, moi le Fils de l'homme. Alors il y avait différentes propositions qui ont été faites. Mais il demande à ses disciples, ceux qui étaient là, ceux qu'il avait vus depuis des mois et des mois et des mois, agir, parler, eh bien, qui dites-vous, qui suis-je? Et ça, c'est un point très important. L'Évangile, finalement, répond à ces deux questions. Qui est Jésus? Et pourquoi Jésus a fait cela? Alors, qui est Jésus? Nous l'avons vu dimanche dernier. Pourquoi Jésus a-t-il fait cela? Et alors, Pierre répond, le Messie de Dieu, et tout de suite, Jésus enchaîne, Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté des anciens, par les anciens et par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Cette première annonce messianique est bien entendu très importante, puisque c'est là que Jésus révèle le but même de ce pourquoi il est sur la terre, de cette mission qu'il va accomplir et qu'il doit accomplir. D'où ce verbe « fallait ». Et il ajouta, pourquoi le verbe est-il utilisé? C'est parce que les espérances liées au Messie n'étaient pas du tout celles que Jésus va indiquer ici. Les attentes liées au Messie, c'était que le Messie allait sortir les Romains de Palestine et qu'il allait introduire le règne à Jérusalem, qui était tant attendu et dont les prophètes avaient parlé. Mais les prophètes avaient aussi parlé d'autres choses qui, elles, étaient occultées, en particulier par les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi dont il est question jusque-là. Et ce hiatus entre les attentes d'un Messie triomphant et de ce personnage dont les chefs ne savaient que faire, eh bien, ça va être une des raisons de la condamnation à mort de Jésus. Et donc, Jésus, tout de suite, réoriente les attentes de ses disciples. Oui, vous dites que je suis le Messie, mais attention, ne vous trompez pas. Quelle va être la mission du Messie? Et cette mission du Messie, ça va être d'être mis à mort et de ressusciter le troisième jour. Et bien des années plus tard, quand l'apôtre Paul se trouvera à Thessalonique et qu'il va prêcher dans la synagogue, que va-t-il dire? Il va répéter, le Messie devait souffrir et ressusciter. Ce Jésus que je vous annonce, disait Paul, c'est lui qui est le Messie. Parce que ce Messie, eh bien, vraiment, il ne correspondait pas aux attentes spontanées qui étaient celles du peuple. Et puis, pas simplement du peuple, des disciples. Rappelons-nous les disciples d'Emmaüs, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais non. L'espérance était d'abord et avant tout que le Messie devait souffrir et ressusciter. Alors, j'ai appelé toute cette première partie la nécessité de la croix et de la résurrection parce que Luc est tout à fait particulier par rapport aux évangiles en liant énormément la croix et la résurrection. Thibaut, tu nous avais marqué ce verset charnière que nous trouvons au chapitre 9 et au verset 51, et alors que les jours de son absomption s'accomplissaient, du fait d'être élevé vers le ciel s'accomplissaient, Jésus dressa sa face résolument pour aller à Jérusalem. Et donc, on voit que l'évangéliste envisage le passage à Jérusalem, mais aussi cette élévation qui passe par la résurrection des morts, cette résurrection qui est tellement prégnante et centrale dans la prédication des premiers disciples dans le livre des Actes. Et donc, la croix ne peut pas être séparée dans la présentation que Luc nous fait de l'œuvre de Jésus, de la résurrection qui allait suivre. Et vous remarquerez que lors des annonces que Jésus fait de son de sa passion, eh bien, il parle de la résurrection juste après avoir indiqué qu'il allait être mis à mort. Alors, nous voyons ensuite Jésus continuer et s'avancer dans une donner des enseignements, continuer à donner des enseignements, mais il y a un verset qui se retrouve au détour du chapitre 12. Le chapitre 12, c'est un long chapitre, hein, plus de 50 versets, où Jésus s'adresse successivement aux disciples, à la foule, etc. Et puis, il y a cette petite incise. Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Je suis toujours frappé depuis longtemps, quand on lit les évangiles, de voir la sobriété avec laquelle les évangélistes racontent la vie de Jésus. Il n'y a pas du pathos dans les évangiles. Et les faits nous sont donnés avec sobriété, de façon factuelle, les discours rapportés. Et nous n'avons pas une description très détaillée des états d'âme de Jésus pendant tout son temps de service ici-bas. À quoi pensait-il? Que ressentait-il? Alors parfois, les évangélistes nous donnent une petite... il était en colère ou il était attristé, etc. Mais c'est quand même relativement peu fréquent. Et en tout cas, lui-même ne s'exprime pas beaucoup. Mais là, nous le voyons s'exprimer. Il y a un baptême dont je dois être baptisé et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. C'est l'ombre de la croix qui devient de plus en plus menaçante sur le chemin du Fils de l'homme jusqu'à ce qu'il arrive au terme de sa vie. Et alors, il revient à l'auteur de l'Épître aux Hébreux de nous donner un parallèle qui est très touchant quand il écrit « Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. » Naturellement, en lisant ce verset, nous pensons à la scène de Gethsémané, dont Luc d'ailleurs donne un récit particulièrement touchant. Mais le jour de sa chair, dit littéralement le texte de l'Épître aux Hébreux, le pluriel indique que ce n'est pas simplement ponctuellement au jardin de Gethsémané que Jésus a offert ses grands cris et ses larmes, mais c'est quelque chose qu'il a accompagné, j'oserais dire habité pendant des semaines, des mois, oserions-nous dire pendant des années, où il avait cette perspective-là de la croix, une perspective horrible. Nous l'avons rappelé de façon encore touchante ce matin, que la croix était le lieu où il a subi la condamnation à notre place, des souffrances terribles. Et l'anticipation de ces souffrances a été pour Jésus une compagnie, si j'ose dire, peut-être quotidienne dans sa vie terrestre. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Mais il est allé jusqu'au bout. À partir du chapitre 9 jusqu'au chapitre 19, l'évangéliste Luc nous présente Jésus en chemin vers Jérusalem et au cours de ce chemin, il indique au chapitre 13 que sa mort doit absolument avoir lieu à Jérusalem. Il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant car il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. Chapitre 13, verset 33. Et déjà, quand il avait été transfiguré sur la montagne, avec Moïse et Élie, il parlait de son prochain départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Pourquoi Jésus n'aurait-il pu pas être crucifié à Nazareth, à Bethléem, que sais-je? Pourquoi cette centralité de cette ville de Jérusalem où il ne convenait pas qu'un prophète, donc, c'est-à-dire lui-même, Jésus s'appelant prophète, meure ailleurs qu'à Jérusalem? Eh bien, nous avons toute cette historique de l'Ancien Testament qui, bien entendu, pointe sur Jérusalem. Jérusalem, cette ville où déjà très très longtemps auparavant, c'était en tout cas dans la région de Jérusalem, où Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier Isaac et qu'il y avait eu un bélier en substitution. C'était aussi à cet endroit-là, à Jérusalem, que David avait offert ce sacrifice qui avait arrêté la plaie qui se répandait dans tout le pays d'Israël suite au dénombrement qu'il avait effectué. C'était à Jérusalem que Salomon avait bâti ce temple, le lieu dont il était si souvent question dans le livre du Deutéronome où Dieu mettrait la mémoire de son nom. Et c'était à Jérusalem aussi que Dieu avait fait retentir année après année ses appels par des prophètes et les Isaïe, les Jérémie, etc. qui s'étaient succédés pour appeler le peuple à revenir à lui. Et ils avaient au contraire été rejetés dans cette même ville. Et donc Jérusalem se trouve être la cité du grand roi, comme nous le dit le psaume. Et dans cette cité du grand roi, eh bien, le roi doit être crucifié. Parce que c'est à cet endroit-là qu'il était nécessaire qu'il souffre et qu'il meure. Le chemin s'avance et nous avons une question des pharisiens qui demandent à Jésus « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Et Jésus leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer, on ne dira pas « Il est ici ou il est là, en effet le royaume de Dieu est au milieu de vous » et le royaume de Dieu était au milieu d'eux par la personne même du roi. Tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme dans son jour, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup. » et qu'il soit rejeté par cette génération. Nous sommes toujours attirés par ce qui est brillant, par ce qui est impressionnant. Mais là, Jésus met bien les choses en ordre. Oui, le royaume de Dieu viendra un jour, il va resplendir d'une extrémité du ciel à l'autre. Il y aura le jour du Fils de l'homme qui va paraître sur la terre. Mais en attendant, ce n'est pas le jour du Fils de l'homme. C'est le jour de celui dont le prophète avait parlé 700 ans auparavant. Mon serviteur réussira. Il sera placé très haut, il sera très haut placé. Comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains. Pour Jésus, comme pour nous d'ailleurs, la souffrance précède la gloire. L'abaissement va devant la gloire, disait le proverbe 1000 ans avant. Et c'est bien ce que Jésus a vécu. Il a d'abord accepté de souffrir beaucoup, d'être rejeté, avant d'introduire ce règne de gloire que nous attendons encore et qui sera vu sur tout l'univers. Le chemin continue et Jésus monte à Jérusalem. Et en s'approchant de Jérusalem, il reçoit l'incompréhension de ses proches. Jésus prit les 12 avec lui et leur dit « Nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. » En effet, il sera livré aux non-juifs, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui, et après l'avoir fouetté, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage obscur, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. C'est un passage que je trouve très touchant, parce que c'est comme si Jésus se tournait vers ceux qui l'accompagnaient en disant « Mes amis, ça va être très dur pour moi, est-ce que je peux partager ce que j'ai de lourd sur le cœur avec vous ?» Comprenez pas cela. Et alors, on peut se poser la question, pourquoi Jésus a-t-il eu besoin qu'on se moque de lui, qu'on l'insulte, qu'on crache sur lui, qu'on le fouette ? Voyez à quel point ici, Jésus détaille à l'avance ce qu'il sait devoir lui arriver, à savoir tout ce qui va se dérouler, en particulier lors de son procès, où avant d'être crucifié, il va subir quand même des sévices physiques assez graves. Et s'y ajoutant, bien entendu, des moqueries et donc des sévices psychologiques, si je puis dire. Eh bien, nous avons un texte qui, me semble-t-il, éclaire un peu cela. Parce qu'on pourrait se dire, pourquoi Jésus, finalement, n'est pas descendu sur la terre un jour ? Il est allé à la croix, et puis après, il est ressuscité. Pourquoi était-il besoin que... il y ait tout ce préalable, si j'ose dire, puisque nous ne sommes pas sauvés par le fouet que Jésus a subi. Nous sommes sauvés par ses souffrances expiatoires à la croix. Et alors, il est très intéressant de voir que Pierre, qui lui aussi a réfléchi comme Luc dans le tableau de départ, a réfléchi pendant des décennies à la suite de ce qu'il avait vu, ce qu'il avait vécu. Eh bien, que nous dit-il dans sa première épître ? Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Je trouve très beau la façon dont Pierre, dans ce chapitre, nous donne tout un mouvement dans lequel il part des souffrances que Jésus a vécues comme exemple pour nous, jusqu'aux souffrances qu'il a subies, cette fois-ci de façon unique, mais c'est quelque part, c'est un continuum. Alors naturellement, nous nous distinguons, nous faisons bien de le faire, me semble-t-il, les souffrances expiatoires des souffrances qui l'ont précédé, mais néanmoins, c'est un continuum. Et si Jésus, comme on le voit ici, a eu des souffrances physiques très difficiles, des souffrances aussi, on peut dire, psychologiques, d'incompréhension, eh bien, c'est peut-être aussi parce que, comme cela, c'est Pierre qui nous le dit, il est pour nous un exemple d'acceptation et de passage dans des souffrances du même type. Parce que, vous êtes d'accord avec moi, même si nous étions crucifiés, le supplice n'existe plus, j'espère, eh bien, nos souffrances n'aurait pas la nature, la qualité des souffrances uniques que Christ a vécues en étant fait péché pour nous sur la croix. Mais en revanche, tout ce qu'il a vécu d'autre, eh bien, cela, dans la mesure où Dieu nous permet, nous fait passer par telle ou telle circonstance, nous pouvons aussi l'éprouver. Et l'éprouvant, nous pouvons constater que Jésus est pour nous un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur, c'est-à-dire quelqu'un capable de compatir à ce que nous vivons. Donc, si ici, dans cette salle, il y en a qui sont chargés d'une manière ou d'une autre, peut-être pas parce que on les fouette, j'espère, mais parce que sont incompris, sont insultés ou que sais-je, d'une quelconque manière, et nous pouvons penser à nos frères et sœurs persécutés dans d'autres pays pour qui les sévices physiques ne sont pas un vain mot, eh bien nous pouvons voir en Jésus celui qui a vécu cela, a traversé cela et est capable de compatir. Et combien de martyrs au cours de l'histoire de l'Église ont témoigné du fait que la perception du fait que Jésus ait souffert physiquement et été maltraité, eh bien, a été un encouragement tout particulier pour eux. Nous avançons, l'heure se rapproche, et lors de la scène, Jésus rappelle ce plan souverain de Dieu et de la responsabilité de l'homme. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé. Mais malheur à l'homme par qui il est trahi. Jésus venait de donner le pain à Judas qui sort dans la nuit. Et dans cette expression très ramassée, il condense à la fois la souveraineté de Dieu. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé. Et ses passifs dans l'Écriture font très souvent allusion à l'action de Dieu, hein, ce passif divin. Mais malheur à l'homme par qui il est trahi. Et dans les discours du livre des Actes, nous avons très souvent cette juxtaposition. D'un côté, la préconnaissance de Dieu, le projet défini et la préscience de Dieu, mais vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. La croix est à la fois la rencontre entre ce plan souverain de Dieu et aussi la responsabilité de l'homme qui crucifie un innocent. Que ce soit Pilate, que ce soit les chefs des Juifs, que ce soit ce qui les pousse là-dedans. Et donc, Jésus est bien conscient que cette mission qu'il va accomplir, eh bien, est à la fois dirigée par Dieu, mais aussi instrumentalisée, si je puis dire, par des hommes. Et juste avant Gethsémané, Jésus a encore une autre parole forte. « Je vous le dis, il faut que s'accomplisse dans ma personne » ce texte de l'Écriture, il a été compté parmi les criminels. Et ce qui me concerne est sur le point de se réaliser. Nous avons évoqué le fait que pendant des mois, des années, peut-être Jésus avait cette perspective-là. Mais vous savez, quand vous avez la perspective de quelque chose d'angoissant, bon, vous y pensez, ok, c'est dans 2 mois, c'est dans 3 mois, ou c'est dans 1 semaine. Mais quand c'est dans quelques heures, quelques minutes presque, cela prend un relief tout à fait particulier. Et effectivement, quelques heures après, on conduisait aussi 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui, Pour que l'Écriture soit accomplie, il a été compté parmi les criminels. On conduisait aussi 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne. Ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à la droite, l'autre à la gauche. L'Écriture se réalise parfaitement dans la personne de Jésus. Et Jésus meurt sur la croix. Mais c'est la nécessité de la croix et de la résurrection. Et alors, quand nous ouvrons le chapitre 24, le dernier de l'Évangile, eh bien, nous avons une scène qui n'est plus la noirceur du chapitre 23 et de cette crucifixion, de ce spectacle auquel les foules avaient assisté et s'en revenaient. Mais nous avons le matin brillant de la résurrection. Et alors, à 3 reprises dans ce long chapitre 24, il est question de ce « il faut ». La première fois, c'est le rappel de l'enseignement préalable du Seigneur par les anges aux femmes près du tombeau. Les anges disent aux femmes « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Nous pouvons être peut-être un peu méprisants vis-à-vis de ces femmes, hein, et puis des disciples aussi, en se disant « Mais enfin, franchement, Jésus, regarde, chapitre 9, chapitre 13, chapitre 17, chapitre 18, franchement, il a dit plusieurs fois, la pédagogie, c'est la répétition, mais là, c'est bon, il était pédagogue. » Et pourtant, et pourtant ça ne percolait pas. Parce qu'il y a parfois des voiles dans notre esprit, dans notre compréhension des choses, et ce voile se déchire à un moment, et ça a été le cas pour ces femmes devant le tombeau vide, et ça a été le cas aussi pour les disciples. Et comme parallèle, j'ai pensé à cette scène où Jésus dit à ceux qui lui reprochaient d'avoir chassé les marchands du temple, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai », voilà le signe qu'il allait donner, ce signe de sa résurrection. Et les Juifs lui dirent, il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Cependant, lui parlait du temple et de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Il a fallu attendre la résurrection pour que Jean se dise, ça fait tilt, c'est bon, j'ai compris. Et c'est pour cela que la résurrection, pour nous chrétiens, est si importante. Il y a Gilbert Pétrier qui a écrit un très beau chant, Jésus, ta résurrection change tout. Et c'est vrai. Et c'est vrai et c'est pour cela que les premiers apôtres ont tellement insisté sur la résurrection. Il est ressuscité. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, eh bien, on ne comprend pas la logique de tout cela. Ça ne tient pas. Mais il est ressuscité. Et c'est ce qui permet de comprendre, finalement, un peu tout le reste. Et dans le même chapitre, après la résurrection, deuxième, il fallait... Donc il faut que le Fils de l'homme soit livré. Deuxième rappel, c'est aux disciples en route vers Emmaüs. Jésus leur dit, homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire au travers de la résurrection, bien sûr. Puis en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui les concernait. Et Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, met bien cet accent sur le fait qu'il y a eu cette mort selon les Écritures, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Et donc, Luc insiste sur cette continuité entre les deux testaments, l'Ancien Testament qui annonce ce qui allait se passer et se réaliser effectivement dans le Nouveau Testament. Et troisième mention, c'est quand Jésus ressuscité apparaît aux 10, il n'y a pas Thomas, nous le savons par Jean, et il n'y a plus Judas, bien entendu, qui s'est supprimé, eh bien, il les invite à croire. Alors, je me suis trompé, ce n'est pas par aux disciples d'Emmaüs, mais c'est aux disciples rassemblés. Il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et donc cette exhortation de dire, voyez, il fallait, et l'Ancien Testament en témoignait. Pour nous, c'est un super encouragement pour étudier la Bible, pour y trouver Jésus-Christ. C'est un peu ce que Jésus disait aux Juifs. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et eux ne voulaient pas venir à moi pour avoir la vie. Donc la bonne façon d'étudier les Écritures, à savoir bien entendu pour les Juifs, là, l'Ancien Testament, la bonne façon d'étudier l'Ancien Testament, c'est d'abord et avant tout d'y chercher Jésus, parce que c'est ça qui alimentera notre vie éternelle. Et il fallait que cela arrive. C'était écrit. Et alors, c'est un très bel encouragement pour nous de fouiller tout l'Ancien Testament, la Tanakh, donc le Pentateuch, la Torah, les prophètes, et puis les écrits divers qui commençaient par les psaumes, et donc par métonymie, les psaumes les englobent tous. Donc tous les livres de l'Ancien Testament, d'une manière ou d'une autre, rendent témoignage à cette nécessité Jésus, le Messie, devait souffrir et qu'il ressusciterait le troisième jour pour que désormais, eh bien, ce salut puisse s'étendre à toutes les nations. Luc étant fidèle à sa vision mondiale, si je puis dire, de la mission. Voilà, donc nous avons parcouru un petit peu les mentions que Jésus faisait de lui-même ou dans le texte de cette nécessité de la croix. Et je vous inviterai volontiers à écouter un chant que j'aime bien et qui... Nous en venons à la deuxième partie de l'exposé, donc après avoir médité sur cette nécessité de la mort et de la résurrection de Jésus, et cette expression que le poète a rendue, « Il faut que je souffre aussi », nous a dit le maître, « Il faut que je souffre ainsi ». Mais l'évangile, selon Luc, nous présente aussi une autre nécessité, et eh bien c'est la nécessité du salut, et en particulier au travers du récit de Zachée. Lorsque Jésus fut arrivé sous le sycomore, où était caché Zachée, il leva les yeux et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi ». Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. Alors Jésus dit à son propos « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Ce verset 10 du chapitre 19 a souvent été retenu comme le verset clé, si on devait en choisir un, de l'évangile selon Luc. Mais j'ai été attiré par cette expression « Il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Il faut que je demeure dans ta maison. » Et alors, quand on parle de conversion, naturellement, on parle souvent de l'invitation. Hein, on invite les gens à croire en Jésus, parce qu'on ne se veut pas coercitif. C'est fini l'époque où on grandissait le glaive en disant « tu te convertis ou tu meurs ». Donc, c'est normal dans un sens. Mais de notre côté, il faut bien voir que se convertir, c'est quand même un ordre que donne Dieu. Dieu annonce maintenant à tous les hommes, tous les êtres humains, disait Paul à Athènes, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Même l'arbitre traduit, Dieu ordonne maintenant à tous les êtres humains qu'ils doivent changer d'attitude parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Toujours cet accent sur la résurrection. Et donc, c'est certain que le message évangélique, c'est « je vous invite à accepter Jésus, à croire en Jésus ». Mais quelque part, Dieu, c'est comme si Dieu disait, mais vous, en fait, vous n'avez pas le choix. C'est un ordre que je vous donne. Alors, vous pouvez désobéir à cet ordre, mais ça va sans doute être difficile, puisqu'il va juger le monde. Donc, dans le récit de Zachée, nous retrouvons un peu ça. Hein. C'est, Jésus ne donne pas le choix à Zachée. Non, tu descends et puis je viens chez toi, parce que je t'apporte le salut. Peut-être est-ce une note que nous devons retenir. Deuxième aspect sur cette nécessité du salut, c'est que au cours de l'évangile, nous voyons que les gens avaient bénéficié du ministère de Jésus, de ses enseignements, de ses guérisons. Ils disaient « Ouh là là, on va le garder pour nous ». Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte pas. Mais Jésus leur dit « Il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu ». Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et c'est vrai qu'en les quittant, Jésus donne à ses disciples une mission mondiale. Elle est faite de toutes les nations des disciples. Et il avertit ainsi, au moins directement, de ne pas s'approprier Jésus. Ce n'est pas mon Jésus à moi, le Jésus de mon groupe d'église, etc. Le Jésus de ma nation soi-disant chrétienne, etc. Non, non, Jésus n'appartient à personne. On ne peut pas dire il est de Céphas, d'Apollos, de Christ. Non. Jésus, il est pour l'ensemble de tous les êtres humains et gardons-nous de ne le privatiser, si je puis dire. L'annonce du salut est faite pour tous, sans exception. Et puis, c'est un salut sans les œuvres. On a deux questions qui sont posées à Jésus. La première, un professeur de la loi se leva pour le mettre à l'épreuve et dit « Maître, que faut-il que j'ai fait pour hériter de la vie éternelle ?» Et plus tard, un chef du peuple, d'autres évangiles disent que c'est un jeune homme, un des chefs l'interrogea disant « Bon maître, que faut-il que j'ai fait pour hériter la vie éternelle ?» Et là, Jésus va, nous savons, pour l'un comme pour l'autre, donner une réponse qui est extrêmement touchante et qui d'ailleurs reste. Pour le premier, il va donner la parabole du bon samaritain qui nous invite chacun de nous à nous reconnaître dans celui qui est tombé entre les mains des brigands et qui ne peut rien pour son salut, qui dépend du bon samaritain entièrement. Et dans le second récit, Jésus va dire à ce jeune homme ben, « vends tout ce que tu as » pour indiquer que ce n'est pas parce qu'il avait gardé un certain nombre des 10 commandements qu'il était exempt d'ailleurs du dernier et qu'il était capable d'avoir la vie éternelle par ses propres besoins. Parce que justement, comme Jésus le disait à Zachée, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus et incapables de se retrouver leur chemin par eux-mêmes. Et donc, il n'est pas nécessaire pour l'Évangile de faire. Et donc, il faut que nous acceptions de ne pas faire. Parce que notre tendance immédiate et naturelle, c'est « il faut que je fasse quelque chose pour que le bon Dieu soit content de moi ». Non, non, non. Il faut que j'accepte ce don gratuit, non mérité, qui m'est donné par pure grâce, par le moyen de la foi, qui ne vient pas de moi, qui est le don de Dieu, pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Un cadeau immérité, généreux, absolu. Et qu'en résulte-t-il ? Eh bien, une joie. Et sur quoi se termine la parabole du père admirable, ou des deux fils, ou comme vous voulez ? Eh bien, elle se termine sur le reproche que le père fait au fils aîné. « Il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, il est perdu et il est retrouvé. » Il faut se réjouir. Et non pas faire la fine bouche. Est-ce que vraiment c'est une vraie conversion ? Est-ce que vraiment ceci ? Est-ce qu'on voit bien tous les fruits du salut ? Il faut se réjouir. Et se réjouir sans arrière-pensée d'une conversion. « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes, qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Et dernier point, c'est la nécessité de l'éthique. Parce que nous retrouvons aussi quelques « il faut » intéressants. En particulier dans le reproche que Jésus fait aux pharisiens pour leur dire « vous ne mettez pas les bonnes priorités ».« Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de chaque plante, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. La façon dont c'est tourné. Il fallait le pratiquer. Qu'est-ce qu'il fallait pratiquer ? Eh bien, la justice et l'amour de Dieu, sans oublier le reste. Et alors, c'est bien entendu cet amour qui est au cœur de l'éthique chrétienne, qui est la source de tout le reste. Et ce commandement nouveau que Jésus a laissé à ses disciples, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais aussi, Paul dit à Timothée, le but de ces instructions, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Les pharisiens étaient obnubilés par la dîme sur chacune de leurs petites herbes à mettre dans leur plat. Okay. Et du coup, ils oubliaient le principal. Jésus renverse la priorité, et cet renversement de priorité, il s'adresse à nous, chacun de nous. Ça n'empêche pas quand même qu'on doive être aussi sérieux dans les détails. Jésus le dit, hein, si vous êtes sérieux dans les petites choses, on vous donnera les plus grandes. Et on voit que Paul dit, l'amour provient aussi d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est aussi un cercle vertueux qui alimente l'amour que nous pouvons montrer les uns pour les autres. Et puis, une autre circonstance aussi qui illustre ce principe de la nécessité de l'éthique chrétienne de la personne avant la règle, c'est la guérison de la femme courbée. Les chefs de la synagogue qui étaient furieux parce qu'on osait guérir une femme courbée un jour de sabbat. Et le Seigneur, c'est très intéressant, je vous invite à relever dans l'évangile selon Luc quand Luc remplace Jésus ou il par le Seigneur. Le Seigneur lui répondit en ces termes, « Hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire ? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» La miséricorde est première. Et c'est ce que Jésus avait déjà dit, « Allez, apprenez ce que c'est, je veux miséricorde et non pas sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et ça, c'est un principe global de notre éthique chrétienne aussi, de mettre la personne avant la règle. Et cette éthique, elle va changer le quotidien. Elle va changer le quotidien, mais dans un quotidien inchangé. Et il était très intéressant de voir qu'au tout début de l'évangile, quand les gens descendent voir Jean à son baptême, il y a trois catégories qui disent « que faut-il que nous fassions ? Que faut-il que nous fassions ? Que faut-il que nous fassions ?» Que ce soit la foule en général, que ce soit les collecteurs d'impôts ou les soldats. « Que faut-il que nous fassions ?» Et Jean répond de façon très, très simple, en fait, ce qu'on pourrait traduire aujourd'hui en « vivez en chrétien là où vous êtes ». Ce qui compte, c'est le respect des commandements de Dieu, que chacun reste dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Voilà, dans toutes les circonstances, ou quasiment toutes sans doute, on peut vivre en chrétien, avoir une attitude changée dans un quotidien changé. Et cette attitude changée, vous remarquerez que le partage avec celui qui n'a pas, celui qui fasse de même, ici, l'absence de corruption, l'absence de violence pour les soldats, finalement, ce sont des choses qui sont applicables de façon très générale à chacun de nous. Et alors en conclusion, je rappelle ces trois nécessités, ces trois champs de nécessité que nous trouvons dans cet évangile selon Luc. Il faut que je souffre ainsi, nous a dit le Maître. Ouais. Il fallait que le Jésus meure et ressuscite pour accomplir le plan de Dieu selon les Écritures. Et alors, pour nous aujourd'hui, il nous faut accepter ce salut accompli avec joie et sans œuvre de notre part. Et ensuite, il nous faut vivre ce salut dans notre quotidien en montrant l'amour de Dieu.